et Olivier Droyère à 15h43. Il nous rejoint, gérant Action Montpensier Bevel. Bonjour Olivier.
Bonjour Guillaume.
Pour rendre votre verdict. Ce verdict d'ailleurs que vous allez rendre, ce moment qu'on va vivre ensemble, est-ce que vous l'assumez pleinement ?
Complètement.
On vous écoute.
Alors le rebond du secteur de la santé en bourse est parti pour durer.
Bon, ça c'est engagé pour le coup. Voilà, parce qu'on se demande quel potentiel désormais sur les semi-conducteurs. On a vu que ça flottait un peu récemment. La défense a du mal à repartir. On cherche les secteurs qui, eux, vont offrir un vrai potentiel durable de croissance pour la suite encore et qui, jusqu'ici, évoluaient de façon un peu cachée. Vous dites, il y en a un, c'est le secteur de la santé.
Oui, alors il est un peu moins caché depuis deux semaines, hein, puisque finalement au niveau global, le secteur de la santé a fait 10% depuis deux semaines, donc c'est quand même assez fort. Jusque-là, c'est vrai que c'était un peu la catastrophe, puisque à moins 3%, le secteur de la santé était le deuxième plus mauvais secteur de la cote avant ce rebond. En fait, ce qui nous fait dire que ce rebond est plus durable, c'est qu'en fait, jusque-là, il y avait eu des tentatives, hein, parfois, quand les marchés étaient très inquiets d'acheter la santé. Mais en fait, quand les marchés achetaient la santé, ils n'achetaient qu'une seule chose. En fait, c'était des grands laboratoires pharmaceutiques. Tout ça, c'est des cash flows visibles, c'est pas très cher. Et donc, ça, finalement, ça rassure. Mais les autres segments du secteur de la santé se comportaient toujours mal. C'est-à-dire, c'est quoi les autres segments? C'est notamment ce qu'on appelle les sciences de la vie. Alors, c'est le diagnostic médical, hein. Bah, par exemple, vous connaissez tous un Biomérieux qui est à moins 35 depuis le début de l'année, par exemple. C'est des sociétés, notamment ce qu'on appelle les CDMO, hein, qui produisent les médicaments biologiques pour le compte de sociétés pharmaceutiques, hein, comme Lonza, le leader mondial suisse, par exemple, ce type de société-là. Donc, sciences de la vie, ça marchait pas. Et alors, les MedTech, c'était encore bien pire. Alors, les MedTech, les gens qui vendent des dispositifs médicaux. Alors là, il y a un petit peu de justification, puisque quand vous avez un peu plus d'inflation, vous vendez un dispositif médical, il est remboursé à un certain prix, vous pouvez pas monter le prix comme vous voulez. Donc l'inflation, c'est vrai que c'était pas très bon pour la MedTech. Mais enfin, à titre d'illustration, effectivement, quand on regarde la plus grosse MedTech américaine, Boston Scientific, finalement, qui se payait 31 fois au plus haut de l'année dernière et 21 fois sur le moyen de long terme, bah, on est tombé à 13 fois les bénéfices. Donc c'est quand même un sacré de-rating, une sacrée baisse de valorisation. Mais là, ce qui se passe quand même dans le rebond depuis 10 jours, c'est que les pharma, elles se comportent pas mal, mais elles font un peu moins bien que les autres segments, qui rattrapent. Et donc pour nous, c'est quand même plus un signe de conviction qu'un signe de mouvement de protection passive de très court terme. Et bon, on trouve que c'est assez justifié, parce que quand on réfléchit sur le fond, il y a pas mal de facteurs qui expliquent, de choses positives qui nous semblent devant nous aujourd'hui. Alors, effectivement, la première, c'est la désinflation. On parle plus trop du pétrole, effectivement. On voit bien que les indices d'inflation, mécaniquement, au cours des prochains mois, vont baisser. C'est pas mal pour les medtech. Dans l'inflation, elles ont eu aussi le sujet des tarifs douaniers qui étaient assez prégnants. Mais en fait, quand on rencontre des sociétés, beaucoup demandent le remboursement en fait de ce qu'ils ont payé l'année dernière. Alors, on n'en parle pas trop, pas crier sur tous les toits. Mais surtout pas en ces prévisions qu'on espère récupérer de l'argent de l'administration américaine. Mais quand même, concrètement, ça se passe. Notamment si on se projette en direction des mid-term, en direction de mi-mandat aux États-Unis, il y a eu quand même un gel, voire même une baisse forte des budgets de recherche académique par Donald Trump. Or, même les républicains modérés trouvent que c'est pas forcément une bonne idée. Il y a des textes bipartisans en cas de perte de la majorité absolue par Donald Trump qui sont déjà prêts à être lancés. Et les industries, elles s'y trompent pas, hein, puisque on a eu un mouvement de rachat dans les sciences de la vie qui était assez intéressant il y a 8 jours. C'était américaine qui est pas très connue des Européens, mais qui est pas si petite que ça, qui s'appelle Biotechné, s'est fait racheter par Merck KGaA, l'allemand, pour 11 milliards de dollars. Donc ça montre bien qu'effectivement, il y a un certain nombre d'industriels qui pensent que c'est le moment et qu'on va avoir des points d'inflexion, notamment dans ce domaine des sciences de la vie.
Vous l'avez cité, ce titre, c'est parce que c'est le titre dans lequel vous croyez particulièrement ou vous en avez...
Non, pas du tout, c'est parce que simplement, je veux pas vous dire que j'y crois particulièrement parce que aujourd'hui, il y a déjà une offre qui a été faite, donc ce serait un peu malhonnête de ma part. Mais parce que simplement, ça illustre qu'effectivement, il y a des industriels qui réfléchissent sur le long terme et qui trouvent que c'était une opportunité intéressante.
Et alors aujourd'hui, elles sont où? Je suis investisseur aujourd'hui en bourse et j'entends Olivier de Royer m'expliquer que le secteur de la santé a beau jour devant lui, même si ça fait longtemps que vous nous le dites et que toutes les valeurs n'en profitent pas. Je vois Sanofi un peu moyen encore le parcours.
Alors Sanofi, c'est même pas moyen, c'est carrément mauvais. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va attendre la feuille de route de la nouvelle directrice générale, mais pour l'instant, il y a un vrai sujet de remplacement des produits qui arriveront à échéance. Mais c'est plutôt effectivement d'élargir dans tous ces domaines hors grandes pharma. Les grandes pharma, on aime bien certaines grandes pharma, mais elles sont globalement à leur prix. C'est pas là qu'il y a vraiment les opportunités les plus importantes. Alors il peut y avoir des biotech, mais là il faut être vraiment spécialiste. Et sinon c'est vraiment toutes ces sociétés qui sont finalement des sociétés de services, des belles sociétés de croissance qui aujourd'hui sont sur des valorisations faibles. Mais alors il y en a une qu'on aime particulièrement aujourd'hui, c'est
une idée.
C'est Tecan, qui est une société suisse. Alors Tecan, c'est
vous êtes le premier à nous en parler.
C'est une société suisse qui est une société qui historiquement en fait conçoit et touche des royalties sur les automates fabriqués par les sociétés de diagnostic. Ils ont également une activité qui est dans la bioproduction, donc ils sont vraiment au cœur de toutes ces tendances du life science. Ils ont également une activité d'externalisation de dispositifs médicaux. Alors, ça, ils ont acheté ça en 2021, ça partait d'un bon sentiment, mais ils sont fait un peu voir par le vendeur, puisque Intuitive Surgical, qui est leur principal client là-dessus, diversifie ses sources d'approvisionnement. Mais après 4 ans quand même de décroissance organique et de baisse des marges, on est à 16% en EBITDA contre 21% au pic. Aujourd'hui, on a une reprise qui est en train de s'amorcer. Ils sont très exposés sur les équipements, et s'il y a une reprise dans le segment, ben, ça va être vraiment sur les équipements. Ils sont très exposés à la recherche, enfin très exposés, exposés à la recherche académique, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on est sur un titre qui est quand même finalement en hausse assez sensible, hein, year to date, en taux de 30%. Donc, peut-être qu'il faut essayer de faire ça en plusieurs fois ou d'affiner le point d'entrée. Mais quand on prend une perspective historique, on est quand même au tiers du pic de 2021. Donc, je dis pas qu'on va y retourner puisque ça me semble quand même un peu excessif comme niveau de valorisation. Mais enfin, il reste encore quand même de la place si on se projette.
On rappelle le nom de ce titre et on l'épelle surtout.
TECAN, T-E-C-A-N.
Voilà, pour ceux que ça intéresse. Il n'y a pas que la santé dans la vie, même si c'est important, bien sûr.
Bah, on est sûr que c'est le plus important. Mais...
Quels autres secteurs vous privilégiez pour le deuxième semestre ?
Alors bon, je crois qu'il faut quand même un cœur de portefeuille qui va être structuré quand même autour de toutes les thématiques corrélées à l'IA. Peut-être pas tout mettre sur les semi-conducteurs non plus, parce qu'on voit que finalement des semaines comme la semaine dernière, ça peut être dangereux. C'est quand même des secteurs qui peuvent être cycliques aussi à certains moments. Donc il faut quand même être dans ces thèmes de l'énergie. Effectivement, bah, on croit beaucoup aux énergies renouvelables, aux réseaux électriques. Hein. Beaucoup de choses se jouent sur l'investissement dans les réseaux électriques, mais on peut avoir que ça. Donc il faut de la diversification, il faut avoir des choses qui soient... Pas, tout ne peut pas être corrélé dans un portefeuille, on le voit sur certaines périodes à ça. Donc il faut la santé, qui est en plus un secteur qui est plutôt, il faut réfléchir à quels sont les autres secteurs qui sont en tout cas pas des perdants de l'IA et qui sont plutôt des gagnants. La santé en fait partie. Il y a dans la consommation un certain nombre de poches, consommation très mal aimée aujourd'hui, qui peuvent être intéressantes. Alors il faut faire attention d'être quand même sur les bonnes tendances de ce que veut le consommateur, mais avec une certaine désinflation qui est en train de se produire. Quand vous êtes sur les bons segments, bon, alors, je reviens un peu à la santé, mais c'est vrai que la cosmétique quelque part, elle va bénéficier par exemple des tendances, notamment avec les gens qui prennent des médicaments pour maigrir, hein, les fameux GLP-1, les Wegovy et autres Mounjaro. Ça conduit les gens à avoir plus d'utilisation de cosmétiques, d'alimentation protéinée. On voit d'ailleurs que le segment des ingrédients, par exemple, est un segment qui est intéressant, qui a commencé à rebondir en bourse, qui était très délaissé, qui a commencé à rebondir. Donc, un certain nombre de pistes dans ces domaines-là.
Ben voilà, quelques idées donc pour la suite. Olivier, Thalès, il faut qu'on en parle aussi. Thalès gagne quasiment 1%, puisque c'est Thalès qui va attraper le gros lot, enfin je sais pas, qui prend Exail, qui va prendre le contrôle d'Exail. Donc ça a été annoncé, ce titre Exail gagne lui 2,5%. On va parler aussi, Antoine, dans un instant, du potentiel du secteur de la défense dans son ensemble. Voilà, finalement on pensait que c'était Safran, finalement Safran a annoncé vendredi que ce serait pas eux, et ce sera Thalès qui reprendra Exail.
Oui, alors ça a été un feuilleton pendant le week-end, donc pour les nerfs des investisseurs c'est mieux, comme ça au moins c'est réglé le lundi à l'ouverture. C'est très difficile de savoir ce qui est passé exactement à les coulisses, parce que j'imagine qu'en dehors des groupes de défense, l'État français est également impliqué, hein. On sait que c'est très important pour l'État français. L'État français ne veut surtout pas qu'une pépite technologique comme Exail échappe finalement à la France et reste dans un groupe français. Donc, à la fin, c'est Thalès. A priori, ça va se faire, hein, puisque effectivement, ça va être quand même très largement verrouillé. C'est vrai que on peut être un peu déçu du prix au premier abord, puisque certains analystes ont des objectifs de cours à 160 euros, donc 134, c'est quand même moins bien. Mais enfin, il faut replacer ça dans le contexte où ils avaient eu quand même un litige avec un de leurs financeurs, ICG, Intermediate Capital Group, qui finalement leur avait prêté de l'argent et qui ils n'étaient pas d'accord sur le financement qui était dû. Donc, en fait, ça va être quand même Thalès qui va avoir finalement à charge de régler ce problème et donc de payer certainement un peu plus que le cours de bourse. Donc, le 134, c'est peut-être un 150 si on corrige de tout ça. Donc finalement, tout ça est quand même relativement logique et il n'y aura probablement pas de surenchère parce que l'État français va faire en sorte que ce soit un Français.
Est-ce que les perspectives de fusion-acquisition peuvent réveiller un petit peu le secteur de la défense ? On a vu qu'il y a eu un engouement extraordinaire l'année dernière, des prises de position, puis voilà, le soufflet retombe un petit peu. Là, on voit tout un tas d'opérations. Il y a Exail, il y a Lockheed Martin, tiens, qui vient de lancer une OPA sur Ultramarine, qui est lui aussi un acteur des technologies de défense maritime. Est-ce qu'il y a justement ce ferment-là sur le secteur ?
Oui, alors c'est vrai que ça paraît contre-intuitif dans le contexte de guerre partout, mais enfin, Rheinmetall, qui est la valeur européenne de défense, même si ça rebondit depuis quelques jours en amont du sommet de l'OTAN et avec ses sujets, c'est quand même moins 29 encore depuis le début de l'année. KNDS, finalement, qui vend les chars Léopard allemands et les canons César, a dû reporter son introduction en bourse. C'est vrai que c'était un peu gourmand en termes de valorisation, mais c'est vrai qu'il y a une distinction qui se fait fait dans le secteur aujourd'hui entre les équipements lourds auxquels les, sur lesquels les investisseurs sont un peu prudents, on se rend compte finalement ça coûte beaucoup d'argent et que si on détruit ça avec un drone, bah finalement c'est peut-être pas là où il faut mettre son argent en matière de défense, et donc un switch vers les technologies de défense dont font partie Exail ou d'autres groupes, c'est ça qui a quand même le plus le vent en poupe. Aujourd'hui, il faut être sélectif dans ce secteur de la défense, secteur qui est effectivement pas mal ouvert, qui rebondit un peu avec le sommet de l'OTAN, voilà. À voir si c'est du court terme ou pas.
Mais oui, ça démarre demain, hein, sommet de l'OTAN. Effectivement, les 32 pays membres de l'OTAN se réunissent en Turquie pour 2 jours. La dernière fois, le dernier sommet de l'OTAN, c'est là qu'avait été acté le fait que les États membres allaient consacrer 5% de leur budget aux dépenses de défense.
Voilà, alors effectivement, bon, on a des annonces. Hein. L'Italie parlait de 17 milliards encore ce matin pour arriver à 3,35% du PIB dans 2 ans, c'est très précis. Hein. Oui. L'Espagne a fait aussi des annonces moins claires, mais globalement, c'est ce qui est difficile, c'est de savoir si finalement tout ça est fait pour amadouer Donald Trump et pour éviter que finalement il n'aboie trop fort pendant le sommet, puis après on fera ce qu'on voudra. Puis surtout, tout ça dépendra beaucoup de savoir si Donald Trump garde une majorité absolue après les midterms ou s'il l'a pas, auquel cas finalement on lui dira peut-être gentiment qu'on fera ce qu'on a envie de faire. Donc effectivement, il y a des effets d'annonce sur lesquels il faut peut-être pas prendre tout ça pour argent comptant. Ça permet au secteur qui avait beaucoup baissé de rebondir. Je le dis, il faut être aujourd'hui. Il y a des choses intéressantes et passionnantes dans ce secteur parce que néanmoins, quel que soit le chiffre exact des budgets, il y a des budgets, il y a de la croissance, mais il faut être sélectif.
Demain, SpaceX va intégrer le Nasdaq 100. Est-ce que vous sentez que ça va le faire, quoi? Est-ce que, alors que le titre a quand même reperdu 30% depuis ses plus hauts, SpaceX, la simple entrée dans le Nasdaq 100 va attirer tellement de flux que ce titre va repartir de l'avant, même si, alors parallèlement, il y a des fenêtres de vente hein, pour les actionnaires historiques qui vont s'ouvrir aussi.
Voilà, alors c'est un peu complexe. À très court terme, ça va forcément mécaniquement va entraîner des flux importants, hein, compte tenu de la capitalisation boursière, c'est mécanique. Alors après ça, c'est vrai que c'est à partir de la publication du deuxième trimestre où là, on va avoir graduellement des investisseurs historiques, donc pas ceux qui sont rentrés en bourse, qui vont avoir le droit de vendre. Alors, ils ont le droit d'abord de vendre 20%, et puis ensuite, finalement, ils vont pouvoir aller jusqu'à 65% au bout de 135 jours. Parfois, il y a des conditions de prix, etc. Il va y avoir, a priori, finalement, des tranches qui vont s'ouvrir tous les 20 jours, mais enfin, il va y avoir un flux dans l'autre sens. Alors, ce qui est quand même fou, c'est qu'on n'a pas la date de publication officielle du trimestre de SpaceX aujourd'hui. C'est indicatif, plus ou moins, 6, 8 août, mais on ne sait pas. Donc, quand même, quand vous faites 2000 milliards de dollars, il y a un peu un dédain quand même pour la vie de la bourse. Mais donc, non, mais en tout
et
cas.
Et les résultats seront accessibles seulement sur le site de SpaceX ou sur le Felix d'Elon Musk ou de
voilà.
SpaceX.
Voilà. Mais c'est un enjeu clé parce que.
Sorte des canaux traditionnels.
Voilà, mais c'est un enjeu clé parce que aujourd'hui, quand on regarde tous les hyperscalers, on peut discuter de savoir du momentum, de combien de temps vont durer cette vague d'investissement, en tout cas à ce niveau-là. Mais la valorisation des hyperscalers n'est pas scandaleuse, n'est pas un obstacle, n'est pas de sujet de valorisation hors de prix. Par contre, SpaceX, oui, c'est conceptuel. Et donc, il faudrait pas quand même que les petits porteurs qui ont quand même investi dans SpaceX perdent quand même 60-80%, parce que ça, ce serait quand même assez destructeur en termes de comportement de marché. Donc, attention à ce point-là quand même.
Merci beaucoup, Olivier de Royer, avec nous aujourd'hui, mon pensier.